Con toda palabra, con toda sonrisa.
Lors de son rachat de la plateforme de microblogging X, anciennement Twitter, le milliardaire et désormais homme politique américain Elon Musk s'est présenté comme un free speech absolutiste, un absolutiste de la liberté d'expression, voulant dire par là qu'il lutterait farouchement contre toute forme de censure, soi-disant imposée par le camp progressiste sur son réseau social. Dans cette optique, il a rouvert les comptes de divers néo-nazis, mais aussi celui du président américain Donald Trump, autrefois condamné par la plateforme pour fake news. Ce dernier, au nom de la liberté d'expression, a même très récemment, ironie du sort, interdit et censuré plusieurs centaines de mots et concepts tels que « droits des femmes » ou « accessibilité » des sites officiels du gouvernement et des publications scientifiques. Cette décision est bien sûr en contradiction totale avec la vision conservatrice américaine habituelle de la liberté d'expression, c'est-à-dire une absence totale de restriction des opinions dissibles sur la place publique, en accord avec le premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui stipule que le Congrès ne peut pas légiférer en la matière. Ici, Trump a révélé au fond que le projet états-unien actuel n'est pas de garantir la liberté d'expression pour tous, mais de garantir certaines opinions et d'interdire les opinions jugées trop progressistes. Le modèle des pays européens est en général plus restrictif en matière de liberté d'expression et ne se vante pas, comme les Américains, de l'absence de restrictions, bien au contraire. En France, l'article 11 de la Constitution définit la liberté d'expression en rappelant que tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Cette définition exclut donc les usages de la parole qui sont considérés comme attentatoires à la sûreté de l'État, mais aussi à la mémoire ou à l'identité de certaines personnes, comme les personnes issues de minorités sexuelles ou de genre, ou encore les personnes de confession juive. Ainsi, la loi Guesso de 1990 réprime le négationnisme et le révisionnisme concernant la Shoah. La vision américaine de la liberté d'expression est purement négative au sens philosophique du terme. Elle se définit par l'absence de contrôle, tout peut être exprimé sans aucune condition, sans limitation. La vision française, elle, est plus positive, c'est-à-dire qu'elle énonce des conditions dans lesquelles cette liberté d'expression peut s'exercer, et elle cherche à limiter l'influence à la fois de la désinformation, du complotisme et de l'intolérance sur la place publique. Il ne faut pas croire que cette conception française, en apparence plus restrictive, fasse pourtant l'unanimité. Nous avons aussi dans notre pays des penseurs et penseuses conservateurs qui militent pour un modèle d'expression à l'américaine. Le 28 novembre 2024, sur X, l'essayiste Eugénie Bastier répondait par exemple à un astrophysicien qui se plaignait dans un tweet du fait de devoir débattre du fait que la Terre est ronde, ceci. Vous devez accepter de convaincre plutôt que d'interdire. C'est ça, le pari de la démocratie. Ce à quoi la chercheuse et géographe Magali Regelzeazit a répondu de manière très juste. En démocratie, on débat des opinions, pas des faits. Justement parce que les faits ne sont pas des opinions. Expliquer les faits, ce n'est pas en débattre, c'est éclairer le citoyen pour qu'il forge son opinion et décide librement. C'est ça le pari de la démocratie. Au fond, la démocratie instaurerait, pour Eugénie Bastier, le primat de l'opinion sur l'information, alors qu'il faudrait justement penser l'inverse, ainsi que le rappelle Magali Regelzeazit. La démocratie, c'est débattre des bonnes orientations, décisions, apprendre à partir des faits reconnus comme communs. L'information correcte doit donc y primer sur l'opinion, comme la Constitution doit toujours primer sur le résultat d'une élection. Depuis quelques années, les courants du complotisme et de la désinformation nous invitent à penser que débattre en démocratie reviendrait précisément à pouvoir librement nier les faits et surtout douter, toujours douter, des consensus scientifiques établis, des chiffres, ou de toute forme de vérité admise de manière générale. Douter de manière excessive, au-delà du raisonnable, revient en fait, dans la pensée complotiste, à s'émanciper de toute forme d'autorité afin de penser véritablement par soi-même, de ne pas être un mouton. Parmi les consensus que l'on pourrait remettre en doute pour les complotistes, le fait que la Terre soit ronde, ou encore le consensus établi par plusieurs méta-analyses sur l'efficacité du vaccin contre le Covid-19 au moment de la pandémie. En 2020, le documentaire Hold Up prétendait ainsi, dans une démarche citoyenne rationnelle et probe, examiner les faux-semblants et les contradictions autour du Covid-19, allant jusqu'à remettre en question l'efficacité des vaccins à venir. Ironie du sort, cette prétendue probité intellectuelle, cette prétendue démarche véritablement scientifique consistant à se poser les bonnes questions, à s'interroger, à remettre en doute, dont se réclament les complotistes, les conduit parfois à se prouver à eux-mêmes qu'ils ont tort, comme le montrent ces expériences comiques menées par des platistes sur TikTok, et qui les conduisent à se rendre compte que la Terre est en fait ronde. Le fait même qu'un certain nombre de complotistes sachent s'interroger, douter, produire des documentaires, mener leurs enquêtes et expériences, construire parfois des systèmes, montre que le complotisme ne naît pas de la stupidité ou de la bêtise, comme une analyse trop rapide voudrait le montrer. En fait, le complotisme ne naît sans doute pas d'un déficit de rationalité, de capacité de raisonnement, au contraire, mais plutôt d'une absence de raisonnabilité, de capacité à se montrer raisonnable et à accepter de déléguer une partie de la construction du savoir à des autorités utilisant des méthodes dont la validité a été démontrée, comme l'autorité scientifique. Le consensus scientifique est toujours considéré comme le plus haut degré de preuve d'autorité à l'heure actuelle, et il est en général fondé sur la correspondance de plusieurs sources scientifiques indépendantes les unes des autres. Pour autant, certains politiciens, certains grands groupes ou parfois certains proches invitent à douter de ces consensus sous prétexte que le doute serait un prérequis indispensable à toute démarche scientifique. Même, il arrive que des scientifiques solitaires, pourtant éloignés de leur domaine de compétence, soient plus soutenus ou davantage pris au sérieux que plusieurs spécialistes en accord sur la question. Ce fut le cas de Didier Raoult, porté au nu pendant toute l'année 2020, tant par les médias que les Français, ou le président de la République lui-même, qui est allé jusqu'à s'entretenir avec lui. Tristement célèbre pour avoir défendu corps et âme l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid, l'étude de Raoult a été récemment désavouée et retirée par son éditeur scientifique. Elle avait pourtant déjà été contestée depuis très longtemps par mains et mains chercheurs pour ses biais évidents, ses données manipulées et son échantillon minuscule de patients-tests. Didier Raoult était comparé régulièrement à Galilée, le célèbre mathématicien italien qui aurait défendu seul face à l'Église le modèle héliocentrique où la Terre tourne autour du Soleil. Il aurait été le seul exemple de probité intellectuelle, d'humilité scientifique, quand finalement c'est bel et bien sa prétention à s'extraire des processus habituels de la science qui a fini par le discréditer. Cette étrange attraction qu'exerce sur nous ces voix solitaires de la vérité qui se dresserait contre la matrice scientifique, contre la société, n'est certes pas étrangère aux scandales sanitaires et aux liens entre science et capitalisme qui ont entaché l'autorité de la science dans l'histoire, nous y reviendrons. Mais je crois que cette attraction a aussi à voir avec la façon dont nous mécomprenons, en tant que société, la démarche scientifique. Faire science, entend-on souvent, c'est douter. Donc si je doute, plutôt que de croire aveuglément en une source extérieure, n'est-ce pas que je suis sur la bonne voie et que je fais, moi aussi, travail de science? Ne faut-il pas toujours se méfier du conformisme, de notre tendance à suivre aveuglément des opinions qui se révéleraient, en fin de compte, fausses? Il est incontestable que le doute, dans nos vies et dans la science, est une vertu. Pourtant, en science, on ne doute pas n'importe comment. Quand on a un doute, on produit un protocole expérimental rigoureux permettant de le dissiper ou non. Ce n'est jamais l'esprit qui est seul juge. Le doute n'est qu'une étape ou un moyen, jamais une fin en soi. Il n'est pas un état d'esprit généralisé, le scepticisme, mais un outil d'investigation. Quand nous avons un doute dans notre vie personnelle, nous faisons généralement de même. Si nous doutons d'une orientation professionnelle, nous testons. Si nous doutons d'un couple, nous essayons de changer de contexte pour voir s'il peut évoluer positivement, etc. S'il y a en fait une méthode, un art de douter, le doute est pourtant devenu galvaudé, utilisé à mauvais escient pour douter d'un consensus établi, d'une information vérifiée, voire nous faire douter de nous-mêmes. Car il faut bien le rappeler, lutter contre le conformisme, ce n'est pas haïr le consensus. Ce n'est pas nécessairement parce qu'une opinion est partagée qu'il faut s'en méfier comme de la peste. S'il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui le tout est plus que jamais une stratégie de pouvoir et de corruption de la vérité. On a pu dire par exemple que la propagation incessante de fake news par Donald Trump relevait du gaslight, c'est-à-dire d'une manipulation permanente de la population. Il commence par mettre en doute l'autorité de la science, et lorsque plus rien n'est vrai, par définition, tout peut donc le devenir. Lorsque plus aucune affirmation n'a plus de poids qu'une autre, il peut par définition dire n'importe quoi, puisque tout est vrai. Il faudrait donc se demander qui doute de qui, ou qui fait douter de qui, et pourquoi. À qui profite le doute qui s'insinue en nous? Et à quoi doit servir de douter? Dans le cas des crimes contre l'humanité, du génocide commis en Palestine et attesté par désormais quelques historiens et plusieurs ONG dont Amnesty International, l'invitation au doute a été constante. C'était flagrant à la télévision. On invitait plus souvent à remettre en doute la parole d'un ou d'une militante en faveur de la libération de la Palestine, ou d'un journaliste indépendant sur place à Gaza, qu'à interroger la parole d'un représentant du gouvernement israélien. Dans le cadre des violences faites aux femmes, on remet plus aisément en question la parole des victimes de viols, d'agressions sexuelles. Dans son ouvrage « Vivre avec les hommes » sorti très récemment, la philosophe Manon Garcia réfléchit au traitement médiatique et social du procès Pellico. Si l'expérience atroce de Gisèle Pellico n'a pas été remise en question, c'est certes parce que le nombre de preuves, vidéos et autres attestant des viols qu'elle a subis rendait les faits absolument incontestables. Mais c'est aussi, écrit Manon Garcia, parce que Gisèle Pellico bénéficie sans le vouloir de l'image de la bonne victime. Il est beaucoup moins facile de faire porter le soupçon aux yeux de la population sur une septuagénaire blanche sédatée par son mari qu'il le serait de remettre en cause la parole d'une jeune belle femme de 20 ans sexuellement active, victime de viol dans des conditions qui seraient similaires. Ainsi, le procès Pellico peut être vu comme une condamnation exemplaire dans le cadre des violences sexuelles faites aux femmes, mais il pourrait aussi être vu comme une condamnation relativement exceptionnelle, qui peut-être à elle seule ne révoquera pas la sale habitude que notre société a prise de considérer que les victimes de viol, quand on ne les accuse pas de mentir, l'ont d'une manière ou d'une autre un peu cherché. En d'autres termes, ce que montre l'exemple des violences sexuelles, c'est qu'il faut toujours inscrire le doute dans un contexte particulier, et ne pas en faire une vertu dans l'absolu et en toutes circonstances. Dans cet épisode intitulé « Douter, faire douter, la haine du consensus », j'aimerais réfléchir à ces usages abusifs d'une vertu pourtant bien salvatrice à de nombreux moments de nos vies. Vous écoutez les Va-nu-pieds, et aujourd'hui nous allons parler du doute.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leurs chaînes, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons.
Dans leur ouvrage « Les marchands de doute » publié en 2010, les historiens des sciences Naomi Oresk et Eric Conway montrent comment les intérêts conflictuels du capitalisme, dont l'intérêt premier est le profit, et de la science, dont l'intérêt est a priori la recherche de la vérité, ont, à partir de 1950, conduit de nombreux dirigeants d'industrie à financer des études pilotées par des scientifiques renommés, des programmes de recherche, des think tanks et même à ouvrir des instituts de recherche. Tout dans l'optique de produire des données susceptibles de remettre en cause ou de questionner des consensus naissants qui les dérangeaient. En 1953, Naomi Oresk et Eric Conway racontent que plusieurs chercheurs issus de l'Institut Sloan Kettering de New York ont publié une étude démontrant que d'étaler du goudron de cigarette sur la peau de souris produisait des cancers. Fait que l'on savait en fait déjà depuis longtemps, mais qui avait été établi par des études sous l'Allemagne nazie. Ce fut une bascule pour l'industrie et pour la pensée capitaliste et libérale dans son ensemble, puisque la science pouvait désormais s'opposer frontalement au profit et à la liberté d'entreprendre, en pointant les risques sanitaires, puis plus tard écologiques, de pratiques industrielles. À partir de là, l'industrie se doterait de moyens d'apparence scientifique pour faire douter de la science. Elle utiliserait la science contre elle-même en retournant, en resignifiant, en modifiant juste un peu l'une de ses valeurs cardinales, le doute. Par peur des taxes gouvernementales sur le prix du tabac qui ne tarderait pas à tomber pour décourager les consommateurs, l'industrie du tabac lança une offensive de mauvaise science de grande ampleur. Un comité scientifique monté par l'industrie peu après 1953, le Comité de l'industrie du tabac pour la recherche, avait pour objectif principal de contester, de faire douter, de toute étude démontrant une corrélation significative entre tabagisme et cancer du poumon. Ce comité mena des enquêtes d'opinion pour savoir comment convaincre les consommateurs et les médecins de l'absence de tout danger. Il s'appuya sur l'absence d'une causalité nécessaire entre tabagisme et cancer du poumon pour poser toutes les questions susceptibles de faire croire que le tabac n'était pas nocif. Si tous les fumeurs ne développent pas de cancer du poumon, n'est-ce pas là la preuve que les études sont insuffisantes, par exemple ? Il demanda systématiquement aux journaux et aux radios des arbitrages équilibrés sur la question, ce qui revenait en fait à accorder le même poids et la même écoute à des études qui ne faisaient finalement que poser des questions auxquelles on avait déjà répondu, qu'à des études expérimentales chiffrées. À la fin des années 1970, la compagnie de tabac R.J. Reynolds a embauché Frederick Seitz, un physicien reconnu sur le point de partir à la retraite, en tant qu'expert chargé de piloter une série d'études dont l'une devait remettre en question les effets du tabac sur le poumon. Seitz, sur la fin de sa carrière, souffrait d'un isolement croissant au sein de la communauté scientifique en raison de positions de plus en plus controversées, quand bien même il fut un temps reconnu pour ses travaux. Pro-tabac, anticommuniste, climato-sceptique, il est devenu de plus en plus partisan à mesure que le temps a passé, d'autant qu'il sortait complètement de son domaine originel de compétences, puisqu'il était à l'origine physicien et non biologiste ou écologue. Toute ressemblance avec un profil comme celui de Didier Raoult, lui aussi chercheur vieillissant et isolé de la communauté scientifique depuis longtemps, est bien entendu purement fortuite. Les engagements controversés de Seitz l'ont conduit à se rapprocher entre autres de l'Institut Marshall dans les années 80. L'Institut Marshall, un célèbre think tank conservateur, a à l'origine été fondé pour soutenir le colossal programme de défense spatiale anticommuniste et un peu zinzin du président américain Ronald Reagan. Il est ensuite rapidement devenu, après la chute de l'URSS, l'un des plus farouches fers de lance du climato-scepticisme aux États-Unis et a contribué, entre autres, à discréditer la cause climatique auprès de l'opinion publique américaine. Ces quelques scientifiques corrompus et financés par des industries mortifères comme Seitz ont réussi à eux seuls l'exploit de faire reculer l'opinion publique sur beaucoup de fronts sanitaires et environnementaux. En sourçant de manière historique et systématique ce scandale, le livre Les Marchands de Doute est devenu immédiatement un grand classique de l'histoire des sciences et a eu un retentissement public très important pour un ouvrage du genre. Il a été publié en 2010, mais encore aujourd'hui, ses constats restent parfaitement fonctionnels et même la situation a empiré à certains égards. D'une part, en amenant à jeter le doute sur l'autorité scientifique et en suscitant la controverse plutôt que de viser le consensus, certains grands industriels ont fait monter leur relativisme, la croyance que toutes les opinions ont la même valeur, le scepticisme, la croyance que la vérité au fond n'existe pas, et le complotisme, qui allie à la fois le scepticisme et la croyance en des entités secrètes et impénétrables qui dirigeraient le monde. On peut donc parler d'une véritable crise de l'autorité du savoir dans nos sociétés, et ce type de scandale est en partie à blâmer. D'autre part, à cette stratégie qui consiste à jeter le doute sur ses adversaires, les industries controversées ont adjoint une autre stratégie qui consiste au contraire à faire taire le doute dès lors qu'il pourrait conduire à se montrer trop précautionneux, trop frileux quant à certaines avancées technologiques. Ainsi, à une certaine époque, alors que nous manquions d'études sur l'impact sanitaire des OGM, ce n'est plus le cas aujourd'hui, les industriels ont choisi d'étouffer toute suspicion, tout doute, tout principe de précaution. Le principe de précaution est une disposition définie lors du sommet environnemental de Rio en 1992. Il stipule précisément qu'en l'absence de connaissances suffisantes sur la dangerosité d'une activité humaine sur la santé ou sur l'environnement, il convient quand même de ne pas faire courir de risques à l'humanité et à ne pas poursuivre la dite activité. Ce principe est donc, on le sait, ignoré constamment par un certain nombre de grands groupes qui commercialiseront toujours un produit tant qu'il n'est pas prouvé par un tiers de manière irréfutable qu'il est dangereux. Autrement dit, certaines grandes industries ont semé et sèment encore le doute sur les pratiques scientifiques de leurs adversaires, mais le font taire lorsqu'il s'agit de faire douter de la qualité de leur production. En matière de doute, donc, force est de constater aujourd'hui que les lobbies les plus puissants sont en capacité de distribuer les bons points. Doutez donc des victimes, disent-ils, mais ne doutez jamais de nous. En tant qu'intervenant formé en philosophie, le constat dressé par des ouvrages comme Les Marchands de doute ne peut que me glacer. Comment en est-on arrivé là ? Comment le doute, vertu cardinale, peut-être vertu la plus fondamentale de la philosophie et du savoir depuis ses origines, a pu être dévoyé à ce point et retourné à la fois contre les citoyens, contre la vérité et contre les personnes les plus vulnérables ? Pour réfléchir à cette question, il convient de retracer quelques jalons de l'histoire du doute en philosophie. Douter vient du latin dubitare, qui est lui-même composé de duo, de, et probablement de habitare, qui signifie se tenir quelque part. Littéralement, douter, c'est se tenir en deux endroits, c'est hésiter entre deux options. On considère que la différence fondamentale entre l'hésitation et le doute tient à l'intensité et à la direction, la finalité, de l'affect. L'hésitation est passagère et considère les deux options comme également valables, ce qui rend certes le choix difficile, mais ne lui retire pas son sens. Le doute est plus négatif et durable. Les deux options sont plutôt vues comme également faillibles, au point où l'on peut demeurer dans le doute et finir par renoncer au choix et consentir au statu quo, à contre-cœur. Le doute peut affecter notre résolution. C'est d'ailleurs souvent comme ça que l'histoire de la philosophie a compris de manière péjorative le pyrrhonisme. Le pyrrhonisme, du nom du philosophe antique Pyrrhon, est un courant sceptique d'origine antique qui affirme que, pour tout argument sur la nature des choses, il existe une affirmation contraire au moins aussi convaincante. Le but de ce scepticisme est de parvenir en théorie à l'époké, la suspension du jugement, et en pratique à l'ataraxie, l'absence de trouble. En effet, en reconnaissant le caractère équivalent de chaque affirmation et de son contraire, on cesse de s'attacher aux idées et l'on parvient ainsi à un état de tranquillité, de détachement vis-à-vis du changement et de la réalité. Par la suite, en son sens moderne, pyrrhonisme s'est mis à désigner une attitude philosophique défaitiste qui abandonne l'entreprise même de la science. De manière schématique, en histoire de la philosophie, on considère que c'est René Descartes qui a véritablement donné au doute son sens moderne en critiquant sévèrement le doute antique, le pyrrhonisme. Pour Descartes, Pyrrhon considère le doute comme une fin en soi, nous laissant ainsi dans le désespoir de ne rien pouvoir véritablement connaître. Ce doute est souvent qualifié d'hyperbolique. A l'inverse, le doute défendu par Descartes, le doute en son sens moderne, est un doute dit scientifique, méthodique. Dans son discours de la méthode, Descartes écrit que la première règle de la méthode en science est de ne tenir pour vrai que ce que l'esprit pourra clairement et distinctement décrire. Autrement, tout le reste peut être remis en doute tant qu'il n'a pas été testé, fondé par la raison. Pour refonder l'édifice de la science, Descartes part de la vérité la plus fondamentale, celle de sa propre existence en tant qu'être pensant, le fameux « je pense, donc je suis ». Le doute est donc une voie d'accès pour trouver des certitudes, des savoirs qui lui résistent. Il est donc fondateur et non plus destructeur. Si aujourd'hui cela peut nous paraître un peu galvaudé, c'est pourtant bien ce moment qui inaugure en un sens la série des philosophes qui continueront, après Descartes, de questionner notre manière de connaître le monde. Après lui, en effet, beaucoup de philosophes vont tenter de reconstruire une nature humaine, universelle et intemporelle, sous la couche de culture, de préjugés et d'histoire accumulées dans les sociétés humaines. Les hypothèses, très à la mode à l'époque, de la nature humaine et en philosophie politique d'état de nature, permettent de remettre en doute ce qu'on croit être dans la nature de l'homme, par essence, pour le questionner et ainsi refonder nos systèmes de pensée et nos systèmes politiques sur des bases plus certaines. Par exemple, dans son œuvre, le philosophe écossais David Hume se présente à la fois comme un sceptique et comme un refondateur de la connaissance humaine sur des bases moins nébuleuses que la religion et la métaphysique. Sa méthode pour repenser la science et l'environnement social et moral des hommes repose sur une base simple, revenir à l'expérience sensible, afin d'examiner si une idée a un fondement empirique dans notre expérience, ou si au contraire, elle n'en a pas. Dans son enquête sur l'entendement humain, Hume questionne sur la base de cette méthode nos idées, dont l'idée dite de causalité, c'est-à-dire la croyance selon laquelle si un phénomène en suit toujours un autre, alors celui-ci est causé par celui-là. Cette idée, nous dit Hume, fonctionne en pratique, mais n'est pas fondée en théorie. Nous ne pouvons pas prouver que cette connexion entre deux événements est nécessaire, c'est-à-dire qu'elle aura toujours lieu. Pour résumer cette idée, Hume écrit cette phrase restée très célèbre « Nous ne pouvons pas nous assurer que le soleil se lèvera demain ». C'est-à-dire que nous n'avons aucune manière de prouver qu'une observation répétée, comme le fait que le soleil se lève le matin, se répétera toujours. Ce problème, nommé problème de l'induction, du nom du type de raisonnement, est toujours valable dans la science d'aujourd'hui. Toute loi scientifique pourrait toujours être en droit contredite par des faits. En fait, si le doute est toujours une méthode en science aujourd'hui, il a fallu légèrement revoir le niveau d'exigence à la baisse par rapport à Descartes. Le doute ne vise plus à vérifier de manière absolue des affirmations, des faits, à parvenir à des certitudes, mais seulement à tester ces affirmations pour voir si elles résistent suffisamment. Plus une affirmation résiste longtemps au doute, et plus elle est solide. Elle n'est pas certaine, elle est simplement vraie, tant qu'elle n'a pas été démontrée comme fausse. Ce principe, qui fait du doute la méthode pour tester la résistance d'un énoncé scientifique, a un nom, la falsifiabilité. Ce principe a été énoncé par le philosophe des sciences Karl Popper dans les années 60. Popper a bien retenu l'idée de Hume selon laquelle on ne peut pas vraiment prouver, vérifier une loi physique de manière absolue. Selon lui, ce qui distingue la science des autres domaines de la pensée humaine, c'est précisément sa capacité à tester sans relâche ses affirmations par des expériences qui cherchent à les contredire. Ce qui distingue une affirmation scientifique d'une affirmation non scientifique selon Popper, c'est le fait qu'elle puisse être remise en doute, être contredite par une expérience contrôlée. A l'inverse, si j'affirme que nous sommes contrôlés par une race d'aliens invisibles qui tournent autour de notre planète, cette affirmation n'est nullement scientifique, puisqu'elle est absolument irréfutable. Elle ne peut pas être testée, mise à l'épreuve et éventuellement réfutée. De même, les affirmations en psychanalyse, aussi utile puisse la psychanalyse être pour certaines personnes, ne peuvent pas être mises à l'épreuve. Le doute scientifique a donc chez Popper un sens bien précis. Il doit prendre la forme d'un protocole expérimental qui vient tester l'affirmation. Plus une affirmation résiste au doute, et plus elle est considérée comme vraie, c'est-à-dire comme n'ayant pas été démontrée, comme étant fausse. La force d'une affirmation scientifique réside non pas dans le fait qu'elle serait une certitude irréfutable, mais dans le fait précisément qu'elle puisse être réfutée, mais ne l'est toujours pas. On peut dire qu'il s'agit dès lors en science de placer une affirmation hors de tout doute raisonnable, comme lorsque, lors d'un procès, on cherche à démontrer la culpabilité d'un accusé hors de tout doute raisonnable. La pensée de Popper, en plus de faire du doute une vertu scientifique, se place dans une vision libérale et démocratique de la société, qu'il nomme « société ouverte ». Dans un ouvrage intitulé « La société ouverte et ses ennemis », publié en 1945, Popper fait une analogie entre la science ouverte, c'est-à-dire le fait que les données, les études et les faits scientifiques doivent être accessibles à tous et à toutes afin de pouvoir être mis à l'épreuve par plusieurs sources indépendantes, et la démocratie, où les opinions des individus s'affûtent dans un débat public ouvert, et où les gouvernements, s'ils se montrent inefficaces et corrompus, doivent pouvoir être réfutés et même révoqués sans autre forme de procès. Popper s'oppose ainsi à une vision de la société où une élite sachante, autoritaire et pétrie de certitudes, gouverne. A l'inverse, la société ouverte est une société du doute et du questionnement, de l'enquête scientifique et politique. On peut voir la politique ainsi comme un test. Lorsqu'une politique ne fonctionne pas, plutôt que de s'acharner, il faut changer de méthode, tester autre chose. C'est donc une vision expérimentale de la société sur le modèle de la science. Ce modèle de Popper me semble convaincant à certains égards, mais il ne prend pas suffisamment en compte les relations de pouvoir et de domination qui existent déjà dans la société et qui font que toute parole n'a pas d'entrée de jeu. Le même poids, ni dans le jeu scientifique où, nous l'avons vu, des industries peuvent parfois payer des poignées de scientifiques pour lutter contre un consensus établi, mais surtout pas dans le jeu médiatique où chaque acteur ne jouit pas du tout du même temps de parole, ni de la même crédibilité. Même dans nos vies de tous les jours, certaines personnes bénéficient soit d'un effet de halo, soit d'un privilège, ce qui nous fait tendre à les écouter davantage. Le parti pris de la démocratie, que toute parole puisse être entendue et réfutée, peut fonctionner à partir du moment où 1. Le poids de la parole de chacun est équivalent, 2. Le doute qui s'exprime est bien une procédure de test, basée soit sur des statistiques, soit des faits, soit des arguments, soit des exemples, soit des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. 3. Ce qui est remis en question ne sont pas des faits déjà établis de manière suffisante, le réchauffement climatique par exemple, mais des orientations politiques, des valeurs, des projets, des théories encore peu solides. Le principe de réfutabilité de Popper appliqué à la science et à nos sociétés est très séduisant, mais il rencontre une limite, à savoir qu'en science et dans la vie de manière générale, nous évoluons sur des bases que nous tenons pour vraies, certaines, et que nous ne passons pas notre temps à réfuter. Un critique de Popper, le philosophe Thomas Kuhn, parle lui de science normale, pour souligner le fait que la science se construit aussi à l'intérieur de paradigmes, de modèles établis, et que, sauf révolution scientifique majeure, elle ne discute généralement pas. Ainsi, le modèle mécanique physique attribué à Newton n'a pas, à proprement parler, été discuté tant que la mécanique dite « quantique » n'a pas été découverte. Il a certes été corrigé, amendé, perfectionné, mais certains de ses principes fondamentaux, comme la gravitation universelle, ont a priori été sauvegardés jusqu'aux découvertes d'Einstein sur la relativité. Autrement dit, en science comme en démocratie, il existe un socle commun sur lequel on travaille, une ceinture de faits sur lesquels construire des discussions. Dès lors, il existe peut-être des choses desquelles il n'est pas raisonnable de douter. Dans un livre écrit sur la fin de sa vie et intitulé « De la certitude », le philosophe Ludwig Wittgenstein écrivait avec humour qu'il est certain que les chats ne poussent pas sur les arbres, bien qu'on ne puisse pas totalement rendre raison du fait que nous en soyons certains. Dans ce livre, il cherche à montrer que nous évoluons toujours avec un certain arrière-plan mental constitué de certitudes, en particulier de certitudes pratiques, qui ne sont jamais ni verbalisées, ni discutées, jamais remises en doute. Ces certitudes ne sont pas des vraies certitudes, elles ne sont pas exactement rationnelles, au sens où nous peinerions à en rendre raison ou à les prouver. Mais il serait dès lors déraisonnable de les remettre en question. Il serait déraisonnable, par exemple, de penser que les chats poussent sur les arbres. Le doute est donc pour Wittgenstein une attitude avant tout morale, qui peut prendre, comme toute attitude morale, une tournure profondément déraisonnable. Il faut donc parfois, nous dit-il, douter du doute lui-même. Ne pas absolutiser cette vertu, mais toujours la voir en contexte, vérifier qu'elle se fonde sur quelque chose, qu'elle n'est pas une manière de faire taire ou de discréditer quelqu'un, ou de questionner des faits que personne ne questionnerait en temps normal. Or aujourd'hui, comme nous l'évoquions en introduction, le doute est devenu dans certaines sphères publiques et privées à la fois déraisonnable, au sens où il n'est pas fondé, et dominateur, au sens où il sert à discréditer, à remettre en question la parole soit de personnes vulnérabilisées, comme les femmes victimes de violences, soit de scientifiques portant des faits qui contreviennent aux ambitions du capitalisme. Un terme est devenu au cours des 20 dernières années populaire pour nommer ce phénomène de mise en doute de la parole de certains groupes, soit pour les marginaliser, soit pour les discréditer, celui de gaslight ou gaslighting. Ce terme a été nommé « mot de l'année » en 2022 par le dictionnaire états-unien Merriam-Webster, qui en donne deux définitions. D'abord, le gaslight, c'est une manipulation psychologique sur le long terme d'une personne, où il s'agit de lui faire douter de ses propres perceptions, de sa réalité, de ses proches, d'elle-même, au point où elle finira par croire qu'elle est folle. Ce sens, qui est le sens premier du terme, vient d'une pièce de théâtre, puis d'un film, où un homme fait croire à sa femme qu'elle est folle afin de l'enfermer chez eux définitivement et de jouir seul de son héritage. Parmi les manipulations insidieuses qu'il fait subir à sa femme, L'une est basée sur la lumière des lampes à gaz. Le mari ne cesse de baisser progressivement le niveau de gaz dans leur maison, et lorsque sa femme se plaint du fait que la luminosité des lampes à gaz baisse en conséquence, il lui répond que c'est un effet de son imagination, qu'elle est en train de perdre la tête. Le deuxième sens de gaslight, plus général, désigne par extension le fait de chercher à tromper quelqu'un dans son intérêt personnel. Dans la définition du Merriam-Webster, le gaslighting est présenté comme une pratique qui couvre à la fois le champ personnel et le champ politique public. Dans chaque cas, il s'agit d'installer un climat durable de suspicion, de désinformation, de deepfake, dans l'objectif que les individus perdent complètement confiance en tout, soit dans un scepticisme généralisé vis-à-vis du monde. J'aime bien l'analogie avec la lampe à gaz, dans la mesure où lorsque l'appareillage des maisons tournait encore au gaz de ville riche en carbone, nombre de personnes qui en étaient intoxiquées à force d'en respirer finissaient par développer des hallucinations. De la même façon, en installant un climat où tout ce en quoi l'on croyait habituellement, l'autorité scientifique au premier chef, mais aussi l'autorité de l'école, l'autorité politique, est en permanence remis en question, on finit par douter de notre propre perception du réel, des autres et de tout ce qui compose notre quotidien. Or, ce doute paralyse notre action, notre capacité à nous mettre en mouvement, notre faculté de prise de décision. Il nous met en quelque sorte en état de sidération, d'inactivité. Faire trop douter quelqu'un, c'est lui enlever sa capacité à être mu par des croyances, c'est lui dénier son droit à agir dans le monde. Le doute, dans les mains de ceux qui ne veulent pas partager le pouvoir, est une arme redoutable. Dans son ouvrage intitulé Gaslighting, ou l'art de faire taire les femmes, publié en 2023, Hélène Frappa repart de cette définition du Merriam-Webster et l'applique aux relations entre les hommes et les femmes. Elle explique que, puisque structurellement, les femmes dépendent plus souvent du foyer que les hommes, ces derniers sont plus susceptibles de pouvoir les éloigner du monde, les marginaliser, les enfermer, et ainsi plus susceptibles de manipuler leur vision de la réalité. Bien sûr, les femmes peuvent aussi manipuler, mais les conditions sociales dans lesquelles nous sommes, où les hommes occupent encore davantage la place publique que les femmes, placent les hommes en capacité de reconstruire la vision du monde des femmes à leur guise. Parce que les hommes jouissent socialement d'une plus grande crédibilité que les femmes, ils peuvent plus facilement nier leur réalité. Je cite Hélène Frappa. Une personne gaslightée adhère d'autant plus facilement à un mensonge, y compris à la négation d'une vérité factuelle, quand sa propre crédibilité a été précédemment entamée. Or, l'histoire de la perte de la crédibilité, c'est l'histoire collective des femmes, telle que la figure mythologique de Cassandre l'incarne. Fin de citation. Cassandre, figure mythologique capable de voir l'avenir, mais qui a été condamnée à n'être jamais crue par le dieu Apollon, incarne la négation même de la vérité et du langage. Sa parole n'a plus aucun sens, même pour sa famille. Hélène Frappa va donc encore plus loin que je ne l'ai été jusqu'ici. Le gaslighting généralisé dans notre société, qui touche particulièrement les personnes déjà vulnérabilisées, dont la crédibilité est faible, n'est pas seulement la disparition de faits communs, de consensus sur lesquels on pourrait s'entendre, mais également la disparition du langage lui-même. Lorsque Trump censure des mots, il empêche la construction d'un sens commun sur lequel repose le dialogue social et donc la démocratie. Je cite encore Hélène Frappa, « Sans un sens partageable, impliquant une conversation démocratique où les interlocuteurs se mettent d'accord sur la signification des mots, le simulacre de conversation politique entre dirigeants politiques et citoyens aboutit à plonger ces derniers dans les affres du doute. À force de mentir, de dire une chose et de faire son contraire, c'est la confiance dans le langage lui-même qui disparaît. En témoignent des expressions comme « c'est des paroles en l'air » ou « c'est un jeu de langage » souvent appliqué aux politiciens. Si aujourd'hui le doute est plus que jamais un instrument de domination, c'est donc que notre contexte invite, selon moi, à un renouveau de la confiance dans les autorités scientifiques. Et je ne parle pas ici que de la physique, la biologie ou les sciences environnementales, mais encore l'autorité des sciences sociales et des sciences humaines. Le débat démocratique ne peut pas passer par la négation ni des données, ni des faits, ni des arguments sourcés. Le débat démocratique n'a jamais consisté à dire que toutes les opinions avaient la même valeur. Au contraire, il sert à ce que les opinions les plus informées, les plus nuancées et les plus véridiques l'emportent. Il existe donc des limites au doute, et il faut se garder de ce doute dangereux, de ce scepticisme qui nous invite à croire qu'au fond, tout discours a bien la même valeur. Dans son enquête sur l'entendement humain que nous avons déjà cité, Hume défend ce qu'il appelle un scepticisme mitigé. Au fond, c'est vrai, on pourra toujours douter des vérités établies par la science. On croit toujours en la régularité de lois, qui feront que si je jette une balle par terre, elle tombera, et que si nous continuons à émettre autant de CO2, la planète se réchauffera. Et nous n'avons, au fond, effectivement, aucune manière de prouver de manière définitive que ces lois perdureront toujours. Mais Hume considère que ce doute, une fois intégré, n'empêche pas de continuer la pratique de la science, ni de continuer à vivre. Nous n'avons peut-être jamais de certitude absolue, mais nous avons des raisons suffisantes de croire. Faire cesser le doute lorsqu'il est déraisonnable est donc également un choix. Faire confiance en une autorité ou aux autres également. Douter de nous-mêmes est une pratique saine, c'est vrai. Interroger par exemple la façon dont nous nous présentons aux autres, les comportements que nous avons hérités de nos parents ou de notre environnement social est sain. Mais parfois, tout en ayant conscience du caractère construit, arbitraire ou douteux de certains fondements de nos choix, on peut tout de même faire ses choix et les assumer. On peut choisir par exemple de représenter, de performer certains traits de la féminité ou certains traits de la masculinité, même lorsqu'ils sont hérités, construits, et ce parce qu'on estime que faire ce choix nous fait du bien et ne porte pas préjudice aux autres. Faire un choix éclairé, c'est l'avoir mis en balance avec d'autres possibles, peut-être aussi convaincant, mais c'est quand même faire un choix. Doutons donc volontiers, mais réfléchissons toujours à la finalité de ce doute, à qui nous invite à douter, et à pourquoi il faudrait douter. Ne doutons pas simplement pour rester enlisés dans la certitude, et lorsque faire douter est un instrument utilisé par un pouvoir arbitraire et tyrannique, au contraire, ne doutons plus, et affirmons-nous à ces noms, mobilisons-nous. S'il faut que la honte change de camp, il faut aussi, je pense, que le doute change de camp. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, je vous invite à le repartager à vos proches ou sur les réseaux sociaux et à suivre la page Instagram @lesvanupieds. C'était Ben pour Les Vanupieds et je vous salue. Le temps qui passe,